Bonjour. Savez-vous pourquoi il ne faut pas être superstitieux? Eh oui, parce que ça porte malheur. J'aimerais vous parler de superstition aujourd'hui. De superstition et de foi. Et des rapports qu'il y a entre les deux, ou qui devraient ne pas y avoir entre les deux. Excusez-moi, je déballe tout mon petit matériel. J'aimerais lire avec vous deux chapitres de la Bible. Un coin qu'on ne va pas souvent, très souvent lire, mais que ceux qui lisent la Bible en un an ont lu il n'y a pas très longtemps. Les chapitres 17 et 18 du livre des Juges qui nous parle d'un dénommé Mica. Donc, si vous voulez prendre vos Bibles, au chapitre 17, alors, déjà, toute cette histoire se situe ici. Dans les monts d'Éphraïm, comme vous voyez, quand le peuple hébreu est arrivé en Palestine, est arrivé de l'Égypte, par là, il a traversé le Jourdain, et ensuite, il a conquis le pays, et chaque tribu a eu son territoire. Et Éphraïm a eu ce territoire-là, et notre histoire se situe à peu près là, dans les monts d'Éphraïm. Donc, je vais lire avec vous. Il y avait un homme de la maison de la montagne d'Éphraïm nommé Mica. Il dit à sa mère, « Les 1100 sicles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi. C'est moi qui l'avais pris. » Oui, le bruit, c'est là-haut, hein. Alors, voilà déjà l'attitude de Mica. Mica, c'est un homme qui doit avoir, je ne sais pas, dans les 40 ans, parce qu'on voit après apparaître son fils. Et c'est un récit qui pourrait être assez émouvant. Un fils repentant du mal qu'il a fait à sa mère et qui lui rend l'argent qu'il avait pris. En fait, ce n'est pas tout à fait cela. L'argent, ça représente 110 ans de travail. C'est quand même pas rien. En fait, c'est pas tout à fait cela. C'est pas par amour filial qui lui rend l'argent, mais c'est parce qu'il a entendu les imprécations que sa mère avait faites. Il a donc peur d'une malédiction. Et il rend l'argent non pas par remords, mais par peur de cette malédiction. Et je vous présente, c'est tout en bas qu'il faut lire, excusez-moi. Le rouge ressort pas très bien. Le premier trait de la superstition que je voudrais vous souligner, la crainte qui est engendrée par une parole de malédiction qu'on sent peser sur nous comme une menace. Bon, c'est peut-être pas quelque chose qui, dans nos pays, est très important, qui nous fait trop peur, mais quand même, vous avez sûrement entendu dire que on dit jamais bonne chance à quelqu'un qui va passer un examen. On lui dit autre chose, hein? Enfin, bon, c'est ce qu'on dit. Mais c'est notre culture, ça nous imprègne. Si vous lisez dans la Genèse l'histoire de Ésaü et Jacob, vous voyez que ces deux jumeaux se sont disputés la bénédiction paternelle. Mais quel est l'effet réel d'une parole que nous prononçons sur Dieu? Est-ce que Dieu est prisonnier de ce que nous allons dire, de nos bénédictions, de malédictions? C'était donc... Ah, t'as mis en blanc, c'est bien. Ah, on a un technicien en repère, là. C'était donc le premier trait de la superstition. On va lire la suite. Sa mère lui répond, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Je ne sais pas si vous voyez un peu cette phrase qui est bizarre. « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Elle apprend finalement qu'elle a maudit, sans le savoir, elle a maudit son fils, puisque c'était lui le voleur. Alors elle va essayer de faire une contre-malédiction. Et elle commence par proférer cette phrase bizarre, « Béni soit mon fils par l'Éternel ». Ce n'est pas une parole de satisfaction, « Béni sois-tu mon fils ». Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une prière, « Seigneur, veuille bénir mon fils ». Non, c'est plutôt une parole qui paraît un peu une espèce de formule magique, une formule de contre-malédiction, comme un antidote finalement aux imprécations qu'elle avait données. Et voilà le... Ah, ça ne marche plus. Puis-je? Bon, voilà le deuxième trait de la superstition qui est la parole. Je ne marche plus. La parole antidote. La parabole magique. Elle est d'autant plus pernicieuse qu'elle utilise des mots ou des formules qui semblent emprunter à la vraie foi. Elle met Dieu dans l'histoire. Que mon fils, béni soit mon fils de par l'Éternel. Et elle pense que comme ça, elle va aller contre, mais elle n'est pas tout à fait sûre. On continue l'histoire. Donc il rendit à sa mère les 1100 sicles d'argent, et sa mère dit, « Je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Elle n'est pas tout à fait sûre que sa parole antidote va suffire. Alors elle va essayer de faire autre chose. Comment est-ce que je peux réparer cette malédiction que j'ai imprudemment proférée? Alors, elle va consacrer l'argent. On verra tout à l'heure qu'elle n'est pas folle. Elle ne va pas consacrer tout l'argent. Sur les 1100 sicles, elle va en consacrer 200 pour son fils. Et elle veut le rendre de cette façon à son fils parce qu'elle pense, dans son idée, que cet argent, il est quelque part porteur d'une malédiction. Elle l'a... proférer des paroles sur cet argent qui avait disparu, maintenant qu'il est revenu, qu'est-ce que j'en fais? Il faut en faire quelque chose, sinon mon fils va être maudit. Le troisième trait de la superstition, c'est tout en bas, c'est qu'un objet est devenu porteur d'une malédiction dans la tête de la personne. Ou on peut voir l'inverse, un objet qui devient porteur d'une bénédiction. Qui devient un gris-gris, un talisman. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai une croix huguenote qui est d'une taille, quand même. C'est celle de ma mère. Je l'ai mise ce matin, ça porte bonheur. Ne rions pas trop. Combien voyons-nous de gens qui arborent telle ou telle médaille, Saint-Christophe ou autre, censé les protéger les voyageurs, par exemple, pour Saint-Christophe. Au cabinet médical, je vois des gens, souvent je les vois en petite tenue, mais avec une chaîne autour du cou. Je me suis toujours dit qu'un jour je ferai une étude sur ce que les gens portent autour du cou. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce que les gens ont. Un jour j'ai vu une dame qui avait une main de Fatima, une croix huguenote et un dé. Alors je lui dis, pourquoi le dé? Elle m'a dit, parce que je crois à la chance. Ça faisait quand même un curieux mélange. Alors, continuons notre histoire. Donc, il rendit l'argent à sa mère. Sa mère prit 200 sicles d'argent. Je vous avais dit qu'elle n'avait pas tout pris. Et qu'elle donna au fondeur. Celui-ci en fit une statue, une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mica, Ce Micha eut ainsi une maison de Dieu. Il fit un éphod et des théraphimes. Je pense que vous êtes sensible comme moi au ton un peu ironique du récit. Hein. On a quand même l'impression que l'auteur du livre des juges, il a pris plaisir à raconter cette histoire. Il est un peu moqueur quand même. Alors, l'organisation de la maison de Dieu, puisque c'est comme ça qu'il appelle, de Micha. La mère et le fils font fabriquer deux idoles, une statue et une image. De quoi, on ne sait pas trop. Il est aussi question d'éphod et de théraphim. Alors, un éphod, c'est ça, là-bas. C'était une pièce de l'habillement du sacrificateur. Hein. Et puis, des théraphim, ben, on pense que ça pourrait être des choses comme ça. C'était des statuettes qui représentaient les ancêtres et qui étaient... Qui supportait, on peut dire, qui servait de support au culte des ancêtres. On voit qu'il y a vraiment un triste mélange dans la tête de ce Micha et de sa mère. Parce que pour faire plaisir à Dieu, du moins c'est ce qu'ils pensent, ils vont commencer par faire quelque chose que Dieu interdit. Je vous rappelle les 10 commandements, Exode 20, tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, ni en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte. C'est un des 10 commandements. Un joyeux mélange, mais qui emprunte à des choses du véritable culte voué à l'Éternel. Donc voilà le quatrième trait de la superstition qui se rapproche de l'idolâtrie, c'est de mêler le culte de l'Éternel à des choses que Dieu condamne. Ici, le culte des idoles, le culte des ancêtres. Est-ce que nos églises sont exemptes d'images, de statues? Est-ce qu'il n'y a pas dans nos lieux de culte, des endroits où les gens vont se prosterner devant des images ou des statues? Mais plus largement, est-ce que nous ne nous prosternons pas parfois devant des images? Il commence à vieillir un peu, notre Johnny Hallyday national, mais c'était l'idole des jeunes. Hein? Alors maintenant, c'est l'idole des plus âgés peut-être, hein, quand même. Hein? Alors, au temps des juges, les circonstances étaient favorables, parce que on voit quand même que les Hébreux vivaient dans la confusion. Et quand vous lisez le livre des juges, vous avez une phrase qui revient, c'est « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui était droit à ses propres yeux. » Et on voit que ce Micha et sa mère, ils ont fait un petit peu selon leur idée. Et justement... Le cinquième trait de la superstition, c'est qu'elle germe dans la confusion, dans le mélange. Alors que Dieu est un Dieu d'ordre, souvenez-vous la création. La création, Dieu sépare. Il sépare le jour de la nuit, il sépare la terre de la mer, etc. On voit que là, c'est une pensée de mélange. On va mettre des choses ensemble qui ne devraient pas être ensemble. Et dans la superstition, on voit ça. Vous avez vu ou lu Harry Potter? Hein? Non? Ben, vous avez lu des contes de fées. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire une potion magique? On prend 3 pales de chat noir, de la bave de crapaud, du sang d'une poule, enfin voilà, et on mélange tout ça. Le mélange, la confusion. Et avec tout ça, on espère faire quelque chose de neuf. Dieu ne veut pas le mélange. Au point de, il y a un verset un peu curieux dans Exode 23 qui dit qu'on ne doit pas faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors on peut se demander pourquoi Dieu a cette demande, probablement parce que sur les peuples environnants ça avait une signification religieuse et il demande au peuple juif de ne pas faire de même. Et comme la superstition germe dans la confusion, elle peut s'affranchir de toute logique. Si vous y réfléchissiez bien, pourquoi un chat noir peut-il apporter la malchance. Ça n'a aucune valeur logique. Pourquoi est-ce qu'une araignée du matin est moins dangereuse qu'une araignée du soir? La superstition germe dans la confusion et engendre la confusion. Alors continuons notre histoire, parce que ça ne s'arrête pas là. Et Micha, donc, qui a sa maison de Dieu, investit l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. Parce que quand on a une maison de Dieu, il faut un sacrificateur. Et cette phrase dont je vous parlais, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il y avait un jeune homme de Benjamin de Juda, du clan de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem, de Juda, pour aller, c'est un peu plus au sud, pour aller séjourner là où il pourrait. C'est un errant, un juif errant. En poursuivant son chemin, il arriva dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Micha. Micha lui dit, « Reste avec moi et deviens pour moi un père et un sacrificateur. » Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Quand je vous avais dit que 1100 cycles d'argent, ça représente 110 années de salaire, c'était de là que je le tire. Et probablement, il était bien payé en plus, hein, parce qu'il va trouver que la place est bonne. Un assortiment de vêtements et ton entretien. Il est nourri, logé, blanchi. Et le Lévite entra, il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micha investit le Lévite, et ce jeune homme devint son sacrificateur et il demeura dans sa maison. Et Micha dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. » Micha a besoin de personnel. Il commence par embaucher son propre fils, puis non, ça va pas. Ça lui semble pas satisfaisant. Il a sûrement de vagues souvenirs comme quoi un sacrificateur, ça doit être un descendant d'Aaron. Alors, il trouve quelqu'un qui n'est pas un descendant d'Aaron, mais qui est quand même de la même tribu, des cousins, on peut dire, hein, qui normalement n'a pas le droit d'être sacrificateur. Normalement, les Lévites, ils étaient au service du temple. On dirait à notre époque, je ne sais pas, un sacristain ou quelque chose comme ça. Hein. Mais bon, il ne va pas aller jusque dans les détails. Il dit, bon, en gros, ça correspond. Hein. Tu vas donc devenir mon sacrificateur. On voit d'ailleurs qu'il a besoin d'un papa, hein, ce Micha, hein, parce qu'il lui dit, tu seras pour moi un père et un sacrificateur. Hein. C'est vrai que depuis le début, on n'entend parler que de la mère. Mais surtout, il a besoin d'un sacrificateur. Au passage, je vous rappelle que Jésus a dit, c'est un petit aparté, on trouve ça, Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre père ni seigneur, car un seul est votre père. Et je trouve troublant que dans l'Église catholique, on ait cru bon de faire appeler les prêtres pères, alors que justement c'est quelque chose que Jésus interdit. Enfin, passons. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans la confusion, dans le mélange, dans l'à-peu-près. Et ce Micha conclut malgré tout, « Maintenant, je sais que Dieu me fera du bien. » Pauvre homme. Son assemblage ne tient pas debout, mais il croit que l'Éternel va le bénir. Et c'est le 6e trait de la superstition. C'est l'apparence de la respectabilité. Croire que l'apparence extérieure peut assurer une efficacité et une entreprise. Et on peut en citer des entreprises religieuses farfelues, des bénédictions des conscrits, par exemple. Hein? La messe pour les conscrits. Moi, j'y suis allé une fois, parce que j'étais conscrit à Pommiers. Je me suis bien juré de jamais y retourner. Bon, je veux dire, tout le monde s'en fiche. La bénédiction des motards. J'ai vu ça à la télé l'autre jour. Il y a des motards parmi nous. Est-ce que vous sentez, vous savez que l'Éternel est censé vous bénir puisqu'il y a des prêtres qui bénissent les motards. Bon. Enfin, si vous vous êtes mettre un peu de solennité sur quelque chose. Si vous avez un prêtre qui vient verser un peu d'eau bénite sur la première pierre d'une maison, ça fait toujours sérieux. Enfin, voilà l'entreprise Maison de Dieu, entre guillemets, lancée. C'est sans doute une entreprise lucrative. Et ça, on verra après que quand elle va disparaître, Micah va se lamenter parce qu'il a tout perdu. Et c'est ce que avait voulu la mère. Et tu m'avais pris de l'argent, t'avais maudit à cause de ça, sans le savoir. Bon, tu me le rends, c'est bien, mais je vais te rendre cet argent. Comment elle veut lui rendre cet argent? Elle veut rendre cet argent en lui fondant une entreprise qui va lui permettre de gagner sa vie. Et si le salarié, le sacrificateur, 10 cycles d'argent par an, c'est que lui-même en gagne beaucoup, parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir de l'extérieur sacrifier dans cette maison, qui vont apporter des sacrifices, vont apporter des dons. C'est une entreprise financière. Pierre-Yves, tout à l'heure, nous a dit qu'on ne couvrait pas tout à fait nos dépenses. C'est peut-être pas si mal que ça. Malheur à nous si nos églises deviennent des entreprises financières. L'histoire a montré combien ce mélange est dangereux. Et c'est le septième trait qui peut être lié à la superstition ou à l'idolâtrie. Faire d'un lieu de prière une entreprise lucrative. Souvenons-nous de l'histoire de Jésus et des marchands du temple. Vous vous rappelez, Matthieu 21, cette maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais ouvrez n'importe quel journal et vous verrez des petites annonces pour des services de voyance ou des choses comme ça. Ça gagne des sous. Alors, une fausse maison de Dieu, un faux prêtre, ça ne peut donner que de fausses prophéties. Et c'est la suite tragique de notre histoire. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. En ce temps-là aussi, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour s'y établir, car jusqu'à ce jour, il n'y était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent de leur clan 5 vaillants hommes du milieu d'eux, de Tsoréa et d'Eshtaol, pour explorer le pays, pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Micah, ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Micah, ils remarquèrent la voix du jeune Lévite. Il devait avoir l'accent du Midi. Hein, et eux-mêmes venaient du Midi. Donc ils devaient avoir un peu l'accent. Ils se sont dit, tiens, il n'est pas d'ici celui-là. Ils firent un détour et lui dirent, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu à y faire? Il leur répondit, Micah a fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je suis devenu son sacrificateur. Ils lui dirent, consulte Dieu afin que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris aboutira. Et le sacrificateur leur répondit, allez en paix, l'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre. Donc la tribu de Dan n'a pas réussi à s'établir dans leur territoire. Et ils envoient des émissaires un peu partout, et ils finissent par cinq d'entre eux finissent par arriver dans la maison de Micah. Et Micah a vite compris, quand il voit arriver ces gens qui devaient être des costauds et en armes, qu'il valait mieux, labourer dans le sens de la descente. Hein? C'est-à-dire leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, et il leur dit, vous inquiétez pas, l'Éternel est avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Combien de fausses prophéties ont ainsi, au fil des années et des siècles, encouragé les guerres, béni les croisades, encensé les puissants. Et comme je ne veux pas toujours taper sur les catholiques, parlons de Luther, qui a des écrits incroyables contre les juifs, incroyables de haine. Alors le huitième trait de la superstition, c'est accorder du crédit à une divination, à un horoscope, à quelque chose qui a un aspect religieux, surtout si ça va dans le sens de nos désirs, de nos envies. Le Nouveau Testament reconnaît bien qu'il existe un don de prophétie qui vient du Seigneur, mais qui est à utiliser avec précaution, à utiliser dans l'Église pour l'édification des fidèles et avec le regard critique des mêmes fidèles. 1 Corinthiens 14, verset 29 dit « Pour les prophètes, c'est Paul qui parle, pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. » Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un dise « Le Seigneur m'a dit que » pour que ça soit exact. Usons de discernement. Alors, voilà, la tribu de Dan, ils étaient là, ces braves gens. Alors, ce qui est en rouge, là, c'est ce qu'on leur avait accordé théoriquement. Le problème, c'est que quand ils étaient arrivés dans ce pays-là, il y avait déjà des gens, et ils ne sont pas laissés faire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir tout ce territoire-là rouge, ils se sont retrouvés qu'une toute petite partie, ils étaient à l'étroit. C'est pour ça qu'ils veulent aller voir ailleurs s'il n'y a pas de la place. Et donc, ils sont montés ici, dans les monts d'Éphraïm, et on verra par la suite du récit qu'ils vont aller jusque là-haut, conquérir un territoire où il y avait des braves gens qui ne demandaient rien à personne et qui vont massacrer pour prendre leur place. Tout ça, parce qu'un faux prêtre leur a dit, mais oui, l'Éternel vous fera du bien, l'Éternel approuve ce que vous faites, faites-le. La fin de l'aventure. Les cinq hommes partirent, ils arrivèrent à Laïch, c'est tout en haut. Ils virent le peuple qui s'y trouvait, habitant en toute confiance à la manière des Sidoniens. Je ne sais pas comment vivaient les Sidoniens, mais apparemment ils étaient tranquilles. Tranquilles et confiants, il n'y avait dans ce pays ni voisins gênants, ni occupants oppresseurs. Ils étaient éloignés des Sidoniens, n'avaient de relation avec personne. 600 personnes du clan de Dan partirent alors de Tsoréa et d'Eshtaol, munies de leurs armes de guerre. Ils passèrent de là dans les monts d'Éphraïm, ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mica. Donc ce n'est plus les émissaires maintenant, c'est l'armée qui arrive. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte cochère. Je vous ai supprimé quelques passages parce que je ne voulais pas faire trop long. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent. Ils prirent la statue, l'éphod, les théraphimes, l'image en métal fondu, pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte cochère avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Le sacrificateur leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi ! Mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Deviens pour nous un père et un sacrificateur. » Ils sont tous en manque de père. Hein. Vaut-il mieux que tu sois sacrificateur pour la maison d'un seul homme ou que tu sois sacrificateur pour une tribu et un clan en Israël ? Le cœur du sacrificateur fut rempli de joie. Il n'est pas étouffé par la reconnaissance. Lui, hein. Il prit l'éphod, les théraphimes, les statues et vint au milieu du peuple. Ils se remirent en route. Et ils partirent. Mica est victime d'un hold-up. Et ses idoles et son personnel disparaissent. Alors Mica leur court après. Et il leur crie après. Et il dira à Mica, « Qu'as-tu appelé ainsi ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais fait. » C'est joli comme phrase. Hein? « Mes dieux que j'avais fait. » Quand je vous disais que c'était ironique quand même. Hein? Vous les avez enlevés avec le sacrificateur et vous êtes partis. Que me restera-t-il ? Vous voyez qu'il est ruiné. Hein ? Comment donc pouvez-vous dire qu'as-tu ? Les fils de Dan lui dirent, ne fais pas entendre ta voix autour de nous, sinon des hommes exaspérés vous attaqueront et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mica, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, ils étaient 600, hein, il était tout seul lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils tombèrent sur Laïch, un peuple tranquille et confiant. Ils le frappèrent du tranchant de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Ils donnèrent à la ville le nom de Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né à Israël. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent sacrificateurs pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation du pays. Ils établirent pour eux la statue qu'avait faite Mica tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Et voilà le faux temple et le faux prophète qui sont arrachés de la maison de Mica est transplanté beaucoup plus haut, tout au nord du pays d'Israël, ce qui serait à notre époque la frontière avec le Liban, et qui devient, pour les gens de cette tribu, le lieu d'un faux culte, avec de faux sacrificateurs, de faux dieux, et évidemment de fausses prophéties. Dernier trait de la superstition, c'est contagieux, la superstition. Le sanctuaire de Dan va attirer un faux culte pour les Israélites, du Nord, et va contribuer à son tour à la confusion des esprits. Il y a une maison de Dieu, on l'a vu, à Silo, une vraie, avec le tabernacle qui est là, avec l'arche, avec les vrais sacrificateurs. Mais évidemment, les gens qui habitent tout au nord, qui auront leur temple à côté de chez eux, ils ne vont pas traverser tout le pays, ils vont s'adresser à cette fausse maison de Dieu. Et ils ne pourront pas ainsi avoir la vraie parole de Dieu. Alors, bon, je vous ai remis la carte, il part tout là. Alors, qu'en est-il pour nous ? C'est bien beau de se moquer de Mika. Mais qu'en est-il pour nous ? Quand nous touchons du bois, quand nous croisons les doigts, quand nous remarquons que nous sommes très à table, quand nous lisons un horoscope pour rire comme ça. Mais aussi, quand certains chrétiens veulent poursuivre la messe en latin, en lui accordant plus de valeur que la messe en prière courante, c'est de la foi ou c'est de la superstition? Quand nous voyons des processions comme ceci, c'est de la foi ou c'est de la superstition? Quand nous voyons gros intérêt qu'a eu ce bout de tissu dit Saint-Suaire, c'est de la foi ou c'est de la superstition? Mais assez tapé sur les autres. Quand nous venons tous les dimanches prendre la Sainte-Cène et qu'elle nous fait du bien, c'est de la foi ou il y a une part de superstition là-dedans? Oui, oui, je vous laisse répondre. Quand nous voulons prier notre Seigneur et qu'il nous semble que notre petite prière à nous dans notre coin, elle n'est pas suffisante et qu'on organise des réunions de prière, des chaînes de prière, c'est de la foi ou c'est de la superstition? Nous obéissons à Dieu ou nous cherchons à le manipuler? La superstition se définit par rapport à une norme. Dans le dictionnaire, il est noté que c'est une croyance ou des croyances qui vont à l'encontre des doctrines et des pratiques attestées par la communauté religieuse ou scientifique. Donc ça se définit comme un écart par rapport à une norme. On peut rajouter que c'est un écart en général confus, mal systématisé, que c'est quelque chose qui germe un peu dans le flou. Mais si c'est un écart par rapport à une norme, il est important de connaître la norme. Jésus, à cette comparaison, il parle du levain. Vous savez ce que c'est le levain ? Prendre la pâte. La pâte, on la laisse moisir dans un coin et sur cette moisissure, on peut ensuite la mélanger à la nouvelle pâte pour la faire lever. Et Jésus dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens. L'Ecclésiaste se pose une question. Si vous avez un vase d'huile parfumée et qu'une mouche morte tombe dedans, est-ce qu'un peu de folie ne va pas emporter sur la sagesse? Alors, la superstition naît de la crainte et engendre la crainte. On l'a vu dans l'histoire de Mika. Tout est parti de la peur d'une malédiction. Alors, on voit des gens qui cherchent à se rassurer. Je touche du bois. Je vais implorer tel ou tel saint. Je porte sur moi tel ou tel objet censé me protéger. La superstition renie donc la foi, la confiance en Dieu et en Dieu seul. Et pourtant, elle garde des apparences qui se rapprochent de la vraie foi. Pourquoi devrions-nous nous rassurer par de tels moyens alors que Dieu nous rassure? Je vous lis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Un peu plus loin, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Pas besoin de pratiques bizarres pour avoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous est accordée. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus en Matthieu 28. Le psaume 121 dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Pas besoin de coller un Saint-Christophe dans votre voiture. Nous sommes donc appelés à la foi et à la confiance en Dieu, à croire à la toute-puissance de Dieu et en son désir de nous garder et de tout diriger dans notre vie. Ce n'est pas qu'il nous arrivera rien, mais ce qui nous arrivera sera aussi voulu par Dieu et accepté par Dieu. Nous devons abandonner tout espoir de manipuler Dieu à notre guise. Et même dans nos prières, quand nous prions le Seigneur, n'oublions pas ce que Jésus nous a dit, que quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. Si nous prions, nous exposons à Dieu nos demandes, mais c'est sa volonté qui s'accomplit. La superstition naît du doute et engendre le doute. Notre foi est claire, ou elle devrait l'être. Nous savons ce qui nous sauve sans hésitation, nous l'avons proclamé en prenant le pain et le vin. La superstition, elle n'est que doute et errance. On voit que la mère de Mika, elle n'est pas sûre que de toute façon elle va arriver à faire quelque chose pour aller contre la malédiction qu'elle a prononcée contre son fils. Alors il y a plusieurs tentatives. Et finalement c'est en vain puisque les dieux, entre guillemets, sont partis. Nous sommes, nous, appelés à l'assurance dans notre Dieu. Non pas dans nous-mêmes, mais dans notre Dieu, c'est lui qui nous sauve. La superstition, elle naît de la confusion, elle engendre la confusion. Alors, à l'époque de Mika, c'est facile de comprendre de telles errances. Ils n'avaient pas grand-chose d'écrit. La pureté de leur foi, elle ne pouvait se transmettre que de bouche à oreille. Nous, c'est différent. Nous avons tout ce qu'il nous faut là-dedans pour savoir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu exige de nous, ce que Dieu nous interdit de faire. Ne nous contentons pas d'écouter une tradition, ni même une autorité de l'Église. Jugeons par nous-mêmes, d'après la parole de Dieu. Les réformateurs ont dit que tout chrétien est un pape quand il a sa Bible ouverte devant lui. Soyons des papes. Ou plutôt, soyons comme les chrétiens de Béret. Vous savez, Béret, on trouve ça dans les Actes. Ce sont des chrétiens à qui Paul, des juifs à qui Paul annonçait le Christ, annonçait Jésus, et il nous est dit qu'ils vérifiaient dans les écrits si ce que Paul leur disait était vrai. Faisons comme eux. Nous sommes appelés à la connaissance et au discernement, et non pas à la confusion. L'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il a été donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tous les vents de doctrine, joués par les hommes et par leur fourberie avec leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards. Nous avons les moyens de connaître la volonté de Dieu. Nous sommes appelés donc à la connaissance Prenons les moyens pour accueillir cette connaissance. Je passe des chapitres entiers de ce que j'avais prévu. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que la superstition a des voisins dangereux. Parce que nous sommes un peu à la limite. Jusque-là, nous avons considéré la superstition comme une erreur qui n'entraîne pas d'autres conséquences que l'erreur elle-même. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Très près de la superstition, il y a des pratiques qui permettent aux forces du mal d'agir, aux forces démoniaques d'agir. Ce sont toutes les pratiques occultes. Si la superstition n'était que erreur, ce ne serait pas trop dangereux. Mais elle peut aussi mettre en jeu des forces. Elle peut être efficace, malheureusement. Il peut y avoir des gens qui font de la divination et qui font de la divination exacte parce que leur pratique est sous-tendue par les forces du mal. Et Dieu avait prévu qu'il nous interdirait, si on trouve ça Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, ce n'est pas une pratique très courante chez nous. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte les esprits ou qui prédise l'avenir, personne qui interroge les morts. Quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. C'est ce que Dieu disait aux Juifs avant qu'ils rentrent en Palestine. Et il y a des choses qui sont à nous et des choses qui ne sont pas à nous. Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous sommes donc appelés à la prudence et à l'obéissance. Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Les dénoncer. Si vous voulez un peu plus de précision, dans la bibliothèque de l'Église, il y a ce vieux bouquin. Je l'ai lu quand j'avais 14 ans ou 15 ans, alors c'est vous dire, hein, il a au moins 200 ans, qui s'appelle « L'occultisme à la lumière du Christ ». Voilà. De Maurice Ray. Pas Marc, hein, Maurice. Voilà. Donc, si ceci vous intéresse, moi je l'avais trouvé fort intéressant lorsque j'étais enfant. C'est l'époque où j'étais copain avec le papa de Marianne. Alors, je voudrais conclure. Seul Dieu peut agir pour notre bien, de toutes les façons, d'une façon naturelle, mais aussi de façon surnaturelle. Seul il peut nous bénir, il peut changer les choses. Nous pouvons le prier, nous pouvons le supplier, en gardant à l'esprit que seule sa volonté s'accomplit. Qu'aucune autre manœuvre, qu'aucune action, qu'aucun geste magique ne pourra le forcer à nous obéir. Croire le contraire serait une offense à sa grandeur, une désobéissance. La foi n'est pas la crédulité. La foi nous implique de bien connaître notre Dieu et la Bible, d'être sensible à l'Esprit de Dieu, de garder un esprit critique sur tout ce qui nous entoure. Méfions-nous des rumeurs. Elles peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait parmi les chrétiens, il y avait eu une rumeur qui disait qu'il fallait se méfier des vêtements qui étaient porteurs d'une fermeture éclair sur lequel il y avait marqué YYY. Vous avez connu ça? Non? Ah, vous êtes trop jeune. Hein? Ah, voilà. Non, c'était il y a une vingtaine d'années, parce que, paraît-il, le fabricant de ces fermetures éclairs marquées YYY avait voué son entreprise à Satan. Alors, il y avait des chrétiens qui faisaient très attention, quand ils achetaient les vêtements, de regarder ce qu'il y avait sur les fermetures éclairs. Bon, évidemment, fausse rumeur. Mais attention, nous sommes appelés à croire et pas à être crédules. Et ça, c'est important. La foi n'est pas la crédulité. Et j'aimerais juste terminer par ce passage de Galates 4 où Paul remonte les bretelles aux gens de la Galatie et leur dit « Maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années ? Je crains d'avoir inutilement pris de la peine avec vous. » Ah non, quand même, le Seigneur n'a pas pris inutilement de la peine avec nous. Il nous a débarrassés de tout ce qui est œuvre des ténèbres et il nous a introduits dans la lumière. La foi n'est pas la crédulité. Connaissons bien notre Dieu et servons-le. Merci.